africain, donc Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Tintin tout seul. À ce moment-là, il peut être tout seul, il se débrouille. Puis alors, il va découvrir, c'est une autre nappe là, il va découvrir, me semble-t-il, les trafics du monde. Toutes les formes de trafic, ce qu'il n'y a pas tellement dans les deux premiers. Les deux premiers, je vous répète, il y a des choses comme ça qui nous frappent dans le premier, et il y a des déclenchements dans le second. Et tout d'un coup, on commence à voir ce que c'est que le pouvoir politique et toutes ces tractations commerciales. Il y a le commerce, et attention, il faut prendre le commerce dans son sens à la fois noble, et en même temps, dans le sens un peu péjoratif où on le prend maintenant. Et chez Hergé, il y a certainement les deux aspects. Hergé est de nouveau un homme, certainement, pour qui, quand on dit commerce, il a tout à fait le sens du comique, c'est-à-dire il sait très bien comment dans le commerce on se roule mutuellement, etc. Comment, justement, on baratine et tout ça. Et ça fait partie de son langage, la manière dont il le capte. Mais il sait aussi que le commerce, c'est commercium. C'est la façon, quand même, dont les êtres humains vivent ensemble. Et comment, pour finir, l'activité commerciale est quasiment notre activité sociale de base. Et en Europe, c'est un peu sensible, le commerce est devenu un peu abstrait, mais justement, et c'est ça qu'Hergé a d'ailleurs capté, quand vous allez dans les autres pays arabes par exemple, puisque nous avons tout ça devant les yeux, eh bien là, on se rend compte à quel point le commerce, c'est un rapport humain extrêmement important. Donc, il va y avoir cette deuxième nappe, où il y a donc le commerce qui va entrer en jeu, et là, il ne peut plus rester seul. Et il va se mettre en place, là, entre autres, les Dupont qui vont être un premier reflet et qui sont d'ailleurs très très bien cette espèce de reflet du commercial, de ces formules qui se renvoient, qui sont un peu insignifiantes et qui nous font rire d'ailleurs en se doublant. Hein, je cite, parce que je crois que c'était éclairant, il ne faut pas trop citer les vieux classiques, mais dans ce cas-là, ça allait très bien. Hein, quand Pascal dit quand nous voyons un visage un peu, peut-être un tout petit peu par ça, bizarre, un peu paradoxal, ben, il ne nous fait pas tellement rire, on en voit tout le temps. Mais que si nous voyons deux visages un tout petit peu caractérisés, tout à fait semblables, l'un à côté de l'autre, il y a un effet extrêmement bizarre qui se produit dans notre esprit. Alors bon, on ne va pas commencer à faire de la grande philosophie maintenant, c'est pas le moment, mais il est certain qu'on peut trouver là-dedans une philosophie absolument énorme, une compréhension énorme de l'être humain. Donc pourquoi est-ce que, Pascal le pose sous forme d'une interrogation, pourquoi est-ce que quand nous voyons comme ça une chose isolée, ça ne nous fait pas rire? Et pourquoi, dès que nous en voyons deux, il y a un phénomène, tout d'un coup, l'impression que ça va être tiré en 1000 exemplaires, et cette espèce d'écho de Dupont rentre très bien dans ces trafics généraux. Et alors là, on peut passer, si vous voulez, alors à ce qui est, on va avoir vraiment l'introduction du cœur de la problématique, avec ce qu'on pourrait appeler les deux initiateurs de Tintin. Alors là, il lui suffit plus simplement de Dupont, comme ça, qui lui renvoie la balle et qui produise des déclenchements commerciaux, des échanges commerciaux. Et il faut vraiment deux initiateurs à la vie. Et ces deux initiateurs, je crois qu'il faut dire, c'est ça. Il y a un initiateur intellectuel et il y a un initiateur beaucoup plus physique. Hein? L'initiateur, bah, intellectuel, ça c'est beaucoup plus facile à dire, je vais le dire le premier, c'est évidemment, hein, c'est Tournesol. C'est ce monsieur qui est un peu dans le soleil, qui est le savant, qui est très désintéressé aussi, c'est l'esprit, hein, l'esprit tel qu'on a pu en hériter, c'est la connaissance scientifique, qui est très, très rigoureuse comme ça, mais en même temps qui n'est pas très adaptée au réel. Et alors, bon, ça c'est un aspect, et il faut, pour être un adolescent, un prime adolescent, et donc découvrir le monde, puisque c'est ça l'idée, disons, qui m'avait frappé, c'est que donc Tintin va vraiment faire comme ça le tour du monde pour faire la collecte du monde, pour se rassembler à un monde avec un grand M, c'est-à-dire une grande ordonnance. Eh bien donc, il faut là-dedans quelqu'un comme Tournesol, mais il faut aussi quelqu'un comme Haddock. C'est-à-dire quelqu'un qui puisse vous initier, c'est un peu le chef scout comme ça, hein, vous initier à la passion, à l'investissement physique, à toutes des forces qui ne descendent plus du cerveau vers le reste du corps, vers la marche, etc. Mais on pourrait dire qu'il procède des pieds, hein, c'est un marin, il y a du tangage, il y a du roulis, hein, il y a des coups de chien, il y a de la tempête. Bon, donc il est là, il colle au sol. Alors évidemment, puis il sent encore mieux, d'autant, mais bon, il y a le ventre aussi qui est certainement important. Pourtant, il boit, hein, c'est-à-dire qu'il est en continuité avec l'environnement. Alors, il boit, il gueule aussi, hein, je crois qu'il faut employer le mot, c'est vraiment ça. Il jure, il sacre, il gueule, et puis en même temps, il a des ancêtres. C'est par là, il a des tripes, et il a tellement des tripes, ça va être tout le vaisseau de la licorne, ça va être Rackham le Rouge. C'est que c'est pas du tout un individu qui est là comme ça devant vous, là, tout simplement, un petit monsieur qui est né à un certain moment, pas du tout. Il est né il y a 2-3 siècles, le gars. Hein? Donc il a tout l'océan derrière lui, il a tout le bateau sous les pieds, et alors c'est ça qui fait la force extraordinaire donc de la bande dessinée d'Hergé. Donc comme je vous dis, ça commence tout modestement avec un petit Tintin comme ça tout seul, chez Wingham, mon cousin, puis alors il y a les Dupont qui commencent à donner la réplique, et puis tout d'un coup, les deux grands initiateurs, avec justement Haddock qui s'introduit d'une manière absolument somptueuse dans ce qui a été d'ailleurs agrandi dans les musées, au moment où Haddock est là avec Tintin, c'est une pleine page, hein, et ils sont là dans le désert, et lui passe le bras autour du cou. Il y a vraiment entre eux un contact qui est un contact physique, et on pourrait dire que la force physique qui vient de Rackham le Rouge jusqu'à notre ami Haddock, hein, qui est pour la chose, le mot est très marrant, évidemment, hein, Haddock, il est Haddock, le gars, hein. Bon, eh bien, donc, qui est pour la chose, qui boit, et tout ça va le mettre en continuité, il va donc être également en continuité avec Tintin. Il faut donc qu'il y ait quand même une force vitale, et ce Tintin qui est justement un peu dévitalisé, qui est une espèce de chewing-gum, comme ça, qui est au fond le grand neutre, le petit personne, c'est un peu McKay, c'est le coup de génie de McKay, hein, quand McKay fait la première grande bande dessinée, qui est, je crois qu'on peut dire, la Divine Comédie de la bande dessinée, peut-être la bande dessinée inégalable, celle de 1905, hein, il crée la chose stupéfiante, parce qu'au même moment que Freud, au moment où Freud crée la théorie du rêve, lui, en bande dessinée, McKay crée également la théorie du rêve. Et il a cette idée absolument fantastique d'appeler son héros le petit personne, celui qui est d'une certaine façon rien du tout, le little, le petit Nemo personne. Et en fin de compte, Tintin ne s'appelle pas le petit personne, enfin il s'appelle Tintin. C'est pas fantastique de s'appeler Tintin, hein, c'est un nom minimum. Et lui-même est une espèce de chewing-gum, comme ça. Bon, il y a une tête, une lune, au fin de compte c'est une lune, qui se balade et qui tire comme elle peut des jambes et un corps derrière elle. Alors il faut quand même qu'il y ait un type qui ait du jus, et ça c'est Haddock. Donc là, nous venons d'introduire, si vous voulez, les deux maîtres avec un grand M, puisqu'il y a eu des objets éclatants avec un grand O, si vous voulez. Maintenant, on est dans les maîtres avec un grand M, quoi, hein, les deux.
De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins bicyclette.
C'est Benoît Peters qui est aujourd'hui en studio. Je crois que François Rivière est définitivement perdu dans les 20 km de Bruxelles.
Nous l'appelons. François !
Je lui rappelle peut-être, au cas où il serait à l'écoute, l'adresse qui est le 157 avenue Beul, boîte 5, 5e étage, 1050 Bruxelles. Nous en arrivons donc au secret de la licorne et au trésor de Racaille Rouge. Je crois que c'est à partir de ce couple d'albums que commencent à se montrer les talents de découpage d'Hergé.
Disons, c'est à ce moment-là que ça éclate vraiment. Je crois que il y a eu un double mouvement dans toute la période d'avant-guerre, un mouvement, disons, de marche vers la cohérence du récit, hein, vers vraiment l'unification du récit, et un mouvement de liberté accrue. Et je crois que le point d'équilibre, le point où les deux choses sont vraiment à leur perfection, c'est-à-dire où Hergé se sent suffisamment sûr de son aptitude narrative, de sa capacité à tenir un fil sans le perdre, pour pouvoir vraiment dériver, vraiment s'en éloigner, puis revenir et savoir qu'il ne perdra pas en cours de route le véritable objet de l'histoire. Et ça, c'est à ce moment-là que toutes ces choses fusionnent. C'est à peu près au moment du Secret de la Licorne, donc le moment aussi où il commence vraiment à concevoir les albums pour les 62 pages, pour la parution quotidienne, etc. Où il commence vraiment à préparer un peu à l'avance une histoire. Il reconnaît lui-même que le Secret de la Licorne est une histoire sur laquelle il a réfléchi un petit peu à l'avance, enfin, puisque c'était quand même 124 planches qu'il allait faire, on ne pouvait pas se lancer dans cette aventure comme ça, à l'aveuglette. Et alors, il va y avoir cette chose tout à fait extraordinaire dans Le Secret de la Licorne, qui est de réussir à mener de front trois histoires qui vont se rassembler au dernier instant. On a en effet, si je compte bien, je crois que je compte bien jusque-là, en tout cas, trois histoires. La première, c'est celle des pickpockets. Pickpocket poursuivi par Les Dupont, et c'est une histoire qui va aboutir à la fin de l'album à ce gag sublime et merveilleux d'Aristide Filosèle qui collectionne les portefeuilles et qui les classe par ordre alphabétique, ce qui est vraiment une des plus belles trouvailles, peut-être une des plus belles trouvailles comiques d'Hergé, une des plus belles idées de personnages secondaires qui est chez lui,
avec un rayon entier consacré au Dupont qui était justement alors
c'est ça pour suite. Bon, et qui ne comprennent pas pourquoi Tintin leur dit de regarder à la lettre D. Alors, il y a cette histoire-là. Il y a la deuxième histoire, bon, qui est l'histoire centrale de la recherche des trois maquettes, des trois modèles réduits de la licorne. Et puis, il y a la dernière histoire qui n'occupe elle qu'une portion de l'album, qui est l'histoire de l'ancêtre de Haddock, le chevalier François de Haddock, et de tout ce qui lui arrive. Histoire qui nous est racontée à travers le filtre ô combien déformant de Haddock, un petit peu enivré. Et ces trois histoires, Hergé réussit à tisser une série de liens entre elles, de telle manière à ce qu'elles, d'abord, elles se recoupent et se croisent, comme s'il s'agissait d'histoires différentes, mais se produisant au même moment, et il arrive à toutes les joindre et les rejoindre de manière à ce qu'elles n'en fassent plus qu'une. Hein, c'est-à-dire, c'est le moment où, dans les portefeuilles qui avaient été pickpocketés, on retrouve un ou deux, je ne sais plus, des précieux petits documents glissés dans la licorne. Ça, c'est d'ailleurs une technique narrative qu'on va retrouver. Bon, j'ai beaucoup de gens. Enfin, je revoyais hier soir le film superbe, fait un petit peu de publicité, le film superbe Diva, qui est exactement construit suivant un principe de cet ordre. On a des événements très très disjoints, comme ça, tous centrés autour de l'idée du son, de bandes magnétiques, d'enregistrement. Tous ces éléments se croisent et finissent par se rassembler de la même manière. Et, donc je termine cette petite parenthèse sur Diva. Eh bien, on a cela dans Le Secret de la Licorne, cela qui va mener à cette aventure beaucoup plus linéaire que sera Le Trésor de Racaille Rouge, mais on a non seulement ces trois histoires qui se croisent sans cesse pour finalement se rassembler, mais en plus ces trois histoires ne sont pas là au hasard puisqu'elles sont comme métaphoriques des trois documents, des trois modèles réduits, des trois documents qu'il faut rassembler pour comprendre la vérité. Donc on a véritablement là quelque chose comme un dédoublement extraordinaire, puisque le récit ne se contente plus de raconter l'histoire de trois documents, il se conforme finalement à l'image de ce qu'il est en train de raconter. Il, Il se donne exactement de la même manière que les documents vont se donner à Tintin, et il nous faut, nous aussi, superposer les trois éléments pour comprendre véritablement ce qui va arriver. Et tout cela avec, en plus, cette espèce d'ingénuité et de liberté d'Hergé, qui, non content d'avoir déjà trois histoires, continue de folâtrer autour d'elle, de créer de nouveaux petits gags, des petites aventures, des petites rencontres, enfin bon, ça c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel et qu'on ne soulignera jamais assez. Je crois que c'est très important de parler aussi des contenus d'Hergé, de tout son apport, et effectivement, je crois qu'il y a un investissement très fort chez Hergé, beaucoup plus fort que chez la plupart des conteurs de bande dessinée, parce que vraiment, il a complètement cru à la bande dessinée. Il ne s'est pas dit, ce sont des petites choses pour enfants que je fais là, comme beaucoup de gens se sont dit. Il s'est dit, bien sûr, ce sont des petites choses, et en même temps, j'y mets tout ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on ne soulignera jamais assez, c'est cette espèce de force dans la narration, d'inventivité permanente, dont je ne connais pas d'autres exemples, en tout cas dans ce domaine.
Mmh. Autre aspect des talents d'Hergé qui apparaît dans ce couple, Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, qui éclate surtout dans les albums suivants, Le Cycle du Soleil, c'est que Hergé parvient à combiner parfaitement le roman à énigme et le roman d'aventure, comme tu l'as montré dans ton livre cassette. C'est-à-dire que tout au long de l'aventure, Hergé sème des indices que le lecteur doit pouvoir lire.
Oui, c'est amusant parce que les trois doubles albums d'Hergé, enfin disons, ce qui tourne autour du trésor d'un carnet rouge, ce qui tourne autour du temple du soleil et de la lune, d'ailleurs c'est intéressant, c'est vraiment les éléments fondateurs de l'aventure, hein, le trésor, la lune, et puis ce temple du soleil, bon, enfin je veux dire qu'il fait un beau couple avec l'épisode lunaire, on a à chaque fois une sorte de balancement du même ordre entre le premier et le deuxième album, hein. C'est-à-dire qu'on a un premier album qui généralement est plutôt du côté de l'énigme, c'est toujours un peu la préparation au voyage, et un deuxième album qui est plus linéaire et plus classique au point de vue de la conception de l'aventure. J'ai tendance à penser, en tout cas pour les trois, que le premier est chaque fois plus intéressant, plus, je veux dire, Les Sept Boules de Cristal est un album plus délirant, plus fou, plus complexe que Le Temple du Soleil, qui est superbe aussi, hein, et de même un petit peu pour Le Secret de Licorne par rapport au Trésor de Rackham le Rouge. Et là, effectivement, on est centré autour d'une pure recherche. L'aventure n'est pas encore là, le voyage n'est pas encore là, tout va y préparer. Et alors, effectivement, ce sont des albums qui vont être extraordinairement construits, puisque dans le premier épisode, il faut lancer une multitude d'indices pour faire comprendre ce qui va se passer. Alors on a cette structure fabuleuse dans Les Sept Boules de Cristal, où on a toutes ces séries d'annonces qui interviennent au début du récit, hein, qui vont vraiment créer un climat, comme il y avait déjà des annonces dans L'Étoile Mystérieuse, avec ces cris proclamant la fin du monde. C'est-à-dire que là, dans le début des Sept Boules de Cristal, on n'arrête pas d'annoncer que quelque chose va se passer pour faire oublier au lecteur qu'il ne se passe encore rien. Hein, on fait peser une menace, c'est une des grandes ressources du récit de mystère. Et en même temps, le récit, effectivement, n'arrête pas d'annoncer réellement, pragmatiquement, matériellement, les éléments qui vont se retrouver dans la suite. C'est-à-dire que si on lit bien le début des Sept Boules de Cristal, on y trouve, dissimulé, mais finalement très visible dès qu'on a lu l'ensemble et qu'on relit, tous les éléments de base, tous les composants de base. C'est-à-dire que toute cette idée, tout ce thème du soleil, etc., se trouve là dès le départ. C'est un album, bon, qui est non seulement complètement circulaire dans sa structure, mais qui n'arrête pas de multiplier les images de cercles, ce cercle boule de feu, donc, qu'on retrouve à la fin et qui manque bien coûter la vie à Tintin et à Doc. Alors bon, on ne peut pas tout récapituler, d'autant que c'est assez graphique, enfin, puisque ça va jusqu'au mouvement des couvertures des deux albums. Tous les personnages se trouvent chaque fois inscrits dans une espèce de cercle implicite. Hein. Ça montre quand même que le travail d'Hergé peut aller très très loin dans le raffinement. Mais bon, pensons simplement, par exemple, au monocle du capitaine Haddock dans le début de l'histoire. Bon, monocle qui traverse tout l'épisode. Pensons bon, au bracelet rond dont Tournesol va s'entourer le bras, aux boules de neige qui par mouvement d'avalanche, emporteront les ennemis. Enfin, bon, là, je ne veux pas déflorer finalement tout le plaisir des lecteurs, mais simplement lancer cette piste et dire que ceux qui auront envie d'y regarder d'un petit peu près trouveront certainement un tas de choses, et même des tas de choses que je n'ai pas vues.
En attendant de poursuivre sur cet album, nous allons écouter Henri Van Leer, auteur de l'article Tintin ou la collecte du monde, poursuivre son analyse des albums de Tintin.
grande, grande initiation, et nous n'en avons pas tellement parlé, parce que, comme vous savez, carrément, à ce moment-là, il cite l'évangile de Saint Jean. Hein, la licorne, quand il y a trois licornes, c'est la Trinité, ça, il n'y a pas à couper. Et puis, il cite en bonne et due forme, il dit, c'est Jean de Patmos, etc. Et on voit, c'est d'ailleurs très, très joli, parce que, comme tous les grands auteurs, il ne commence pas par vous donner la solution. Donc, vous la trouvez vous-même, si vous êtes un lecteur suffisamment... auditif et visuel, quoi. Vous sentez tout d'un coup que ça devient tout à fait évangélique. Alors, au cas où vous vous direz, oh, mais enfin, quoi, je suis en train de déraisonner, je cherche midi à 14h, alors ça vous est dit deux vignettes plus loin ou à la page suivante, et là, vous avez véritablement la solution. Et vous voyez bien que c'est la charité, c'est pour finir la charité qui se trouve là derrière chez nous. La charité n'est pas du tout au bout du monde, Tintin va au bout du monde, et puis pour finir, on va finir par trouver ça dans la cave chez soi, et c'est dans une cave, c'est pas dans un grenier, on va finir par trouver ça dans un sous-sol, et dans justement, si vous voulez, une map monde, ou un globe terrestre, dans un globe terrestre, c'est là véritablement que va être se résoudre, et que va se donner la dernière parole, et cette parole est la charité. Donc c'est ce que les deux grands initiateurs ont permis de trouver. Mais alors, après avoir fait cette exploration-là, où aller ? Alors il faut aller, plus loin, quoi. Et entre autres, il va y avoir cette espèce d'exploration de la Lune, qui se fera d'ailleurs en deux albums, qui va être un morceau somptueux, parce que justement, à ce moment-là, toute l'exploration de la Lune, ça va être essayer d'agrandir le monde avec, comme nous disions tout à l'heure, un grand M, c'est-à-dire, c'est un mot extraordinaire, le mot monde, hein, ça veut dire le bien ordonné. Exactement, donc, comme le mot grec cosmos, qui veut dire le bien ordonné. Hein? Et c'est par là que, bon, ça c'est adolescent. Tandis que pour nous, hein, ce serait peut-être plus le cosmos dans le sens étymologique ou le monde, mundus dans le sens étymologique, comme pour Tintin, mais de plus en plus nous nous ouvrons à l'univers, quelque chose qui est, si vous voulez, au-delà. Mais alors, donc nous revenons maintenant, à Tintin, et qu'est-ce que nous voyons ? C'est qu'en fait, dans la Lune, ben, il ne va pas rapporter, on ne peut pas rapporter tellement de choses. Et alors, il va être dans plusieurs albums qui vont suivre. Il va être confronté à la deuxième adolescence. C'est-à-dire que lui, ce que nous avons appelé le prime adolescent, frappé par simplement les objets éclatants, bien sains, pas compliqués, pour qui les femmes n'ont pas de corps féminin. Il n'y a pas de corps féminin dans Hergé, ou bien elles ont des poitrines comme des planches, ou bien au contraire, c'est une espèce de rostre comme ça. Il n'y a pas de milieu entre les deux. C'est-à-dire, donc, mais quand même, la féminité, c'est évidemment, c'est la castafiore. C'est la chaste fleur, le mot le dit donc de la manière la plus explicite, hein, et ça va être le thème des bijoux, et quiconque a lu Diderot sait très très bien ce que veut dire le mot bijoux, les bijoux, donc c'est d'ailleurs le titre d'un roman de Diderot, hein, et les bijoux, bon, c'est l'appareil sexuel, donc c'est l'appareil génital. Et alors donc, il y a quand même, Hergé, c'est le français, il sait ce que les mots veulent dire, les bijoux de la castafiore, c'est les bijoux qu'elle va perdre, ou qu'elle pourrait perdre. En tout cas, qu'elle croit avoir perdu et qu'elle n'a pas perdu, puisqu'elle est justement la cantatrice, mais que la cantatrice, c'est celle qui crie qu'elle va les perdre, mais en fin de compte, qu'il ne les perd pas. Hein? Donc, il va y avoir, si vous voulez, tout ce moment où Tintin va se trouver devant ce qui va suivre, qui serait la découverte donc de l'amour, proprement dit, par l'intermédiaire d'Adoc, hein, dont on annonce qu'il va peut-être se marier avec la castafiore, etc., Paris Match, le Paris Match de l'époque annonçant ça, et bien sûr, l'amitié. Cette amitié profonde, la fameuse amitié pour Chang, hein, qui va dominer Tintin au Tibet, on se trouve là vraiment, puis il y aura les extraterrestres, on se trouve devant tous ces thèmes qui sont des thèmes de frontières, c'est-à-dire des thèmes, si vous voulez, qui apportent un certain trouble, exactement comme le trouble politique véritable, hein, des carrosses, des choses comme ça, mais donc un trouble profond, tout d'un coup, toucher le fond des choses, où vous vous rendez compte que parce que c'est ce qui présente est très très violent, c'est que la droite c'est la même chose que la gauche, et que le tout pour finir c'est une inversion d'uniforme. Un petit peu ce qui se passait déjà à cette époque-là, et Hergé a dû connaître tout ça. Hein, il y a 40 ans, par exemple, au Brésil, comme on disait, il y a deux grandes alternatives, vous avez une alternative, excusez-moi, ou bien vous avez le général de l'armée de terre, ou bien vous avez le général de la flotte. Alors maintenant, on peut ajouter, d'ailleurs, comme on voit dans les conflits, il y a encore le général de l'armée de l'air. Donc il y a trois, on va d'un uniforme à l'autre, et Hergé a très très bien senti ces mécanismes. Mais sentir un mécanisme comme ça, c'est dépasser la prime adolescence. l'adolescence. C'est aller déjà vers l'adolescence où on commence à voir comment le monde tourne. Et alors, c'est ça qui est, me semble-t-il, tout à fait extraordinaire donc, dans ses œuvres, c'est que Tintin pressent tout ça, mais grosso modo, tiens, revenons à l'image qu'il y a dans les bijoux de la Castafiore, il a sur la couverture du livre, où il y a bien le feu rouge et le feu vert pour les deux bijoux, justement, qui sont deux hauts, les deux histoires d'eau, si vous voulez, de la couverture, absolument explicite, comment il va, en même temps, lui, mettre le doigt sur la bouche. C'est-à-dire, bon, il y a le Castafiore, il sait pas très bien ce qui se passe, il sent qu'il y a peut-être des trucs qui passent comme ça, des chaleurs, des ferveurs, des torpeurs, de tout ce qu'on peut imaginer, mais, et la seule fois d'ailleurs qu'un personnage féminin est couché sur un divan, pendant un instant, la Castafiore va être couchée sur un divan, elle est quelque peu pâmée, non, et lui met le doigt sur la bouche, sur la couverture, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon problème. Laissons la pie venir rechercher ce bijou et le rendre éventuellement. Ce n'est pas mon problème. Ce qu'il y a d'ailleurs donc d'extraordinaire comme cohérence, c'est que justement, ce problème-là pourrait être perçu donc à travers l'opéra, l'air d'opéra, cette espèce d'investissement sexuel énorme de l'opéra, et dont Hergé pressent d'ailleurs qu'il aurait certains rapports avec la télévision, et ce sera la bande dessinée dans laquelle il y aura une irruption extraordinaire de la télévision. Donc il y a une cohérence prodigieuse de l'œuvre, ce qui fait que je répète, quand on dit que Hergé est quelqu'un qui travaille au premier niveau et pas au deuxième niveau, je ne sais pas, alors je dirais qu'en tout cas, c'est en travaillant au premier niveau qu'on arrive à saisir vraiment les structures les plus profondes, parce que quelqu'un qui, comme ça, faisant justement la bande dessinée, les questions de l'amour, qui peut évidemment l'amour sous la forme du chant, étant donné ce qu'est Tintin, de sentir qu'à ce moment-là c'est le thème de l'opéra, et que ça va devenir ipso facto en même temps la bande de la télévision, et sentir ce rapport à ce moment-là entre opéra et télévision, ça me paraît absolument remarquable. On a dit ça depuis, tout le monde l'a dit, redit et surdit. Mais le dire au moment où lui le dit, ça me paraît extrêmement fort, c'est une espèce d'infaillibilité du coup d'œil.